maintenant vous présenter ce qui a été mis en place cette année suite aux premières rencontres de l'année dernière et suite aux diverses réunions qu'on a faites avec le groupe de travail, à savoir qu'est-ce qui a été mis en place, les problèmes éventuels qu'on a rencontrés. Pour ce qui est des résultats, on va voir cet après-midi sur site certaines parcelles qui ont été semées. Et puis pour les résultats des suivis, puisqu'il y a des suivis qui sont effectués, je vais vous en parler. Il faudra attendre un peu puisqu'ils sont à peine commencés actuellement. Voilà, je vais commencer par rappeler un petit peu le contexte de Montpellier au sujet des prairies fleuries. Donc les premières prairies fleuries ont été semées en 99, c'était pour la Coupe du Monde. À l'époque, on avait voulu faire des drapeaux bleu, blanc, rouge, mais les couleurs n'avaient pas fleuri au même moment. Donc voilà. Mais depuis, bon, ça a quand même bien plu aux usagers, puisqu'on n'a pas cessé d'augmenter les surfaces. Enfin, je dis « on », mais je n'y étais pas encore. C'était un technicien, Jean-Marc Calmeras, qui a suivi la plupart de ses premiers essais. Et on est arrivé en 2008 à 11 hectares de prairies fleuries. Donc ça commençait à représenter un coût assez important d'après les pratiques qu'on a menées jusqu'à présent, à savoir un semi-annuel et par contre un achat de semences horticoles. Donc ces semis se faisaient dans le cadre de certaines contraintes. D'abord, la règle des marchés publics qui s'applique à nos travaux, à savoir qu'on doit lancer une consultation avant chaque mise en place. Donc ça implique une moindre flexibilité dans le choix des partenaires avec qui on travaille. Cette règle des marchés publics s'applique aussi bien pour la fourniture que pour la préparation de sol, puisque pour l'instant, c'est pas la préparation, on la sous-traite, on la fait pas en régie. Voilà. Deuxième contrainte, bien sûr, j'ai commencé à en parler, c'est la maîtrise budgétaire. Donc, question qui commence à se poser d'après les surfaces qu'on sème et qui se pose avec d'autant plus d'importance au moment de parler de semences sauvages, puisque le coût est bien plus cher, plus de 10 fois plus cher entre des semences horticoles et des mélanges qu'on a pu mettre en place cette année. Mais là aussi, je vous en parlerai plus en détail par la suite. Troisième contrainte, c'est les résultats esthétiques, puisque certes, il y a un engouement fort de la population, mais c'était pour l'instant dû aussi au type de fleurissement, qui est un fleurissement très spectaculaire, qui durait peut-être un mois et demi, et qui fait que les élus, ils sont très attachés. Mais est-ce que si on passe sur un fleurissement beaucoup plus étalé, beaucoup plus diffus, est-ce que ça plaira aussi? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop encore, il y a une incertitude à ce niveau. Et enfin, les exigences de sécurité, ça c'est important d'y penser au moment où on parle de modifier les itinéraires, les méthodes de culture, à savoir si on passe sur un fauchage tardif des semences pour des espèces pour faciliter la production de graines, il va falloir pour le moins communiquer, peut-être mettre en place des couvre-feux, des choses comme ça, puisque pour les usagers, les prairies toutes sèches, c'est vraiment quelque chose de ça les inquiète vis-à-vis du risque incendie, même si ça fait pas partie de la réglementation des FCI, puisque la réglementation des FCI se porte plutôt sur les ligneux et sur les arbustes. Voilà, donc dans le cadre de ces contraintes, il y a des enjeux forts qui ont commencé à émerger dernièrement. Dans le cadre de notre démarche environnementale, de celle du service Espace Vert, on a voulu augmenter un petit peu, enfin améliorer la biodiversité, puisque certes, mettre en place des prairies fleuries avec des semences horticoles, c'est déjà bénéfique par rapport aux économies d'eau, par rapport à la faune, mais certes, les semences horticoles sont pas, on suppose que c'est pas les plus aptes à accueillir la faune sauvage. Donc il y a eu cette volonté d'améliorer la biodiversité et l'impact financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un souci par rapport à la maîtrise de la maîtrise budgétaire. Donc on a donc décidé de participer d'intégrer le groupe de travail qu'animait Olivier. Et les deux axes principaux qu'on a décidé de mettre en place, c'est de travailler sur la composition des semis. Donc ça a été fait en grande partie avec le groupe de travail. Et aussi de notre côté, de réfléchir un petit peu plus aux itinéraires techniques de préparation de sol et de semis. Donc là aussi, on a mis en place des tests. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller les voir aujourd'hui. Au moins, juste la prairie de Bonnet qui a été. Encore une fois, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a essayé de faire. Voilà, donc je vais vous parler maintenant dans les deux grandes parties de cette présentation. Ce sera d'une part les mélanges et d'autre part les techniques, les technique de semis et de préparation de sol. Ben, je vais reprendre, Olivier l'a fait tout à l'heure un petit peu, mais je vais reprendre les étapes du groupe de travail. Donc on a commencé par, je dis on, mais là c'est pas du tout moi qui m'en suis occupée. Et il y a une liste exhaustive d'espèces a été mise en place, les espèces qu'on pouvait trouver autour de Montpellier. Enfin, elles se voulaient exhaustives en tout cas. Donc c'est là que le conservatoire est intervenu pour éventuellement enlever certaines espèces. À partir de ça, pour une première année, on a décidé d'enlever de cette liste les espèces qui n'étaient pas commercialisées par les deux semenciers avec lesquels on était partenaires, à savoir Phytosem et Innovaflore. C'était les deux semenciers qui avaient participé à la réflexion l'année dernière pour pouvoir... pour pouvoir commander ces espèces un peu plus facilement. Donc ensuite, on a regardé quelles parcelles pouvaient être semées. Donc à Nîmes, il y a certaines parcelles, bon, elles seront présentées demain. Et à Montpellier, on a retenu 3 parcelles. Donc on a défini un petit peu les caractéristiques de ces parcelles. Et ensuite, on a croisé ces données pour définir pour chaque parcelle des mélanges d'espèces. Apparemment, pour chaque espèce, on avait catégorisé un petit peu l'intérêt esthétique, à savoir si c'était des espèces plutôt à utiliser comme fond ou des espèces à mettre plus ponctuellement. Et à partir de ces informations, on en a déduit des pourcentages différents. Donc une fois qu'on a eu ces mélanges définis, là on s'est adressé aux semenciers pour essayer d'avoir de commander ces mélanges. Donc c'est là que ça a été. Donc je vous rappelle les 3 parcelles qu'on va essayer de visiter. Donc Transparence Les Hirons, on ne pourra pas y aller parce que c'est assez inaccessible. Il y a des travaux importants du fait de l'avenue de la mer. Mais on va aller voir Malbosque et Foncolombe. Bon, on va voir les résultats. Donc j'ai rencontré à ce niveau-là plusieurs problèmes qu'il faudra prendre en compte pour l'année prochaine. Donc premier problème, c'était le coût des mélanges, puisque là on s'est rendu compte qu'on avait multiplié par 10 à peu près selon les mélanges le coût au kilo des mélanges. On est passé entre 30 et 50 euros du kilo pour des mélanges sauvages à on passait à l'origine pour des mélanges horticoles pardon on passait à plusieurs à quelques centaines d'euros selon les mélanges. Donc là il a fallu c'était même contraire à la démarche, puisque l'idée c'était de tester des mélanges qui puissent être après généralisés. Et même si on arrivait ponctuellement à faire l'effort d'acheter ces mélanges, ça servait à rien, puisque par la suite les collectivités pourraient pas l'acheter, donc on a assez rapidement, puisque c'était le moment de commander, on a eu recours à des espèces qui étaient certes horticoles, mais peu différentes des espèces sauvages. Donc ça on va en reparler plus largement de ce gradient entre espèces sauvages et espèces horticoles, ce qui a permis de réduire le coût. Deuxième problème, c'est on avait défini dans nos mélanges, on avait prévu de mettre des trèfles notamment. Or les trèfles, ça fait partie de ces variétés qui doivent être, si on les commercialise, il faut utiliser les variétés qui sont certifiées. Donc là aussi, on n'a pas pris les espèces qu'on voulait prendre, on a pris les versions certifiées. Troisième problème, bon ça c'était plus spécifique à la ville de Montpellier en rapport avec nos contraintes réglementaires, c'était que on avait travaillé au départ avec 2 semenciers, mais on n'a pas pu commander à ces 2 semenciers puisqu'on était régi par le code des marchés publics. Donc on a commandé à un des 2 semenciers avec qui on avait déjà un marché, et Novaflore nous a donné des mélanges à tester. Ces mélanges, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller les voir, mais ma collègue a pris des photos, donc on va pouvoir voir un peu ce que ça a donné. En deuxième partie, je vais vous parler maintenant des techniques de mise en place. Alors pour ce qui était des tests de mélange sauvage, là on a adopté la technique du faux semis, à savoir on fait un labour avant les premières pluies, et puis on attend la levée des adventices, et ensuite on fait un deuxième herçage superficiel pour éliminer les adventices, et on sème. Voilà, pour ce qui est des mélanges classiques, c'est-à-dire les autres parcelles, puisque nous on a continué à faire nos parcelles, on a fait 6 hectares de parcelles classiques avec des mélanges horticoles comme on fait chaque année. Donc là on a voulu tester sur certaines de ces parcelles quelle était la préparation de sol la plus efficace Puisque, est-ce que c'était la peine chaque année de refaire un labour, de refaire un herçage? Est-ce qu'en semi-direct, ce serait pas aussi efficace et bien moins cher? Et on a aussi, bon, pour histoire de compléter la comparaison, appliqué des techniques de faux semis. Donc là, on ira voir la parcelle qui est juste à côté pour voir un petit peu si on peut en déduire des résultats. Alors par rapport aux techniques de mise en place, là aussi on a rencontré quelques problèmes. Bon, c'était d'ordre un peu plus technique. Premier problème, bon, c'est quand même important pour le respect du calendrier. Par rapport à nos prévisions, l'agriculteur qui était chargé du semis a eu beaucoup de mal à labourer au mois d'août puisqu'il n'avait pas encore plu. Et il me disait que le sol était beaucoup trop sec, il n'arrivait pas à labourer correctement. Donc là il semblerait que ce soit les machines qu'il utilise qui ne soient pas les plus adaptés, puisque apparemment Olivier me disait que en Espagne notamment, il avait vu des labours très précoces se faire sur des sols très secs. Donc là, il faudra revoir ça. Deuxième problème, c'était qu'on avait utilisé, on avait eu recours pour les mélanges sauvages à des parcelles qui n'avaient jamais été semées. Donc là, les résultats, les parcelles étaient des fois difficiles à labourer et les résultats aussi ont été quelquefois assez difficiles. On va pouvoir le voir cet après-midi. Et troisième problème, et ça c'était vraiment lié à la démarche, c'était le retard qu'on a pris dans la définition des mélanges du fait des modifications successives qui nous ont amené à commander assez tardivement. Donc ça nous a amené à semer plutôt au mois de début, entre fin octobre et début novembre, alors que l'idéal était, on s'était fixé plutôt la première quinzaine d'octobre pour semer. Mais heureusement, le climat a été favorable puisqu'il a fait chaud assez tard et qu'ensuite il y a eu pas mal de pluie, donc bon, on a eu de la chance de ce côté-là. Donc pour revenir sur ces techniques de préparation de sol, il y a trois parcelles où les itinéraires de préparation ont été testés, donc Gramont qu'on va pouvoir voir, les jardins de la Gironde et l'avenue du colonel Pavlé, donc ça je pense pas qu'on ait le temps de les voir. Et juste pour information, on va essayer d'y passer, mais il y a un carrefour, une parcelle à Willy Brandt où on a essayé de rien faire du tout pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais on n'a pas encore pu aller voir en bas. On va téléphoner ou on va essayer d'avoir l'information dans la journée. Voilà. Donc en conclusion, les pistes de réflexion qu'on en a déduit au niveau du service espace vert, hein, pour continuer le travail sur 2010, déjà intégrer plus en amont les semenciers, puisqu'on a souhaité faire une définition un petit peu théorique des mélanges. Et on a été confronté un peu tardivement à la réalité financière. Donc, et puis aussi, les semenciers peuvent apporter peut-être un plus pour ce qui est de la cohérence des mélanges, des espèces entre elles, la façon dont elles cohabitent. Peut-être avoir une réflexion sur l'adaptation de nos exigences au contexte, que ce soit au niveau de la provenance des espèces, où est-ce qu'on met le curseur entre espèces sauvages et une variété horticole. On a été obligé de le faire un peu rapidement, mais peut-être c'est bien de passer du temps, de se poser pour le définir. Et ensuite, dans notre degré d'intervention, dans les pratiques de culturales, à savoir selon l'accessibilité du site, selon sa visibilité, qu'est-ce qu'on recherche et à quel niveau est-ce qu'on intervient annuellement ou tous les deux ans, etc. Ensuite, bon, ça c'est vraiment les machines, le problème du labour, c'est vraiment spécifique, bon, c'est beaucoup plus ponctuel, mais il faudra y penser aussi. Et enfin, pour ce qui est du choix de la sélection de nos parcelles, la sélection des mélanges, là c'est les divers suivis qui sont en cours, qui vont nous aider à y voir plus clair. Un suivi déjà esthétique qui est fait actuellement par les agents du service espace vert et piloté par Hélène. Et un suivi de biodiversité, donc ça c'est les écologistes de Lozère qui le mènent et ils vous en parleront directement. Voilà.
Merci.